Chapitre 22. Le blizzard commençait à perdre de sa force, ou peut-être était-ce la grisaille de cette matinée qui parvenait à traverser l'épaisse couverture nuageuse en redonnant au paysage un semblant de normalité. Tom Buckle, enfoncé dans la neige jusqu'aux genoux, se figea à une cinquantaine de mètres de l'autoroute et porta son regard vers le nord. La visibilité restait médiocre, ce qui ne l'empêchait pas de voir les phares et la silhouette du Snowcat s'éloigner à la poursuite de la motoneige livrée à elle-même. Brusquement, l'engin opéra un demi-tour, et ses projecteurs se fixèrent sur Tom, tels les yeux menaçants d'un insecte monstrueux. À cette distance, et par ce temps, il était peu probable que ses poursuivants puissent repérer sa silhouette blanchie par le givre au milieu de l'immensité neigeuse, mais le Snowcat se remit en route en se dirigeant droit sur lui. Si la motoneige était équipée d'un mouchard, pourquoi pas Tom, après tout? Une balise aurait-elle été cousue dans la doublure de sa combinaison? Il suffisait que l'ennemi se soit approché suffisamment près de la motoneige pour constater qu'elle était abandonnée. Ou alors que ses poursuivants effleuraient du louche en voyant l'engin s'éloigner de l'autoroute, avant de comprendre qu'il devait suivre la balise de Tom et non le mouchard de la machine. Empêtré dans l'épaisse couche de neige, il se dirigea tant bien que mal vers l'autoroute, dont les quatre voies surplombaient le paysage d'une quarantaine de centimètres, sans la protection d'une glissière de sécurité. Les voitures roulaient lentement, à 50 km à l'heure tout au plus, tous phares allumés et leurs roues équipées de chaînes. Tom s'interdit de se retourner, comme à l'époque où il se persuadait qu'aucun monstre ne viendrait l'attaquer tant qu'il ne regarderait pas sous son lit d'enfant. Il se hissa sur le bas-côté, repoussa sa capuche et retira son masque. S'il était équipé d'un émetteur à son insu, c'était probablement dans la parka. Il baissa la fermeture éclair, la retira, et sentit sous ses doigts un objet dur cousu au niveau de la poche dans laquelle était enfouie la capuche en temps ordinaire. Il roula la parka en boule, fit un nœud avec les manches et s'en débarrassa en la jetant sur le plateau à ridelle d'un camion qui passait lentement à sa hauteur. Malgré le caleçon long et le pantalon de la combinaison, sa chemise en flanelle ne suffisait plus à le protéger du froid et il tremblait de tous ses membres. Il agita les bras au-dessus de sa tête en direction des voitures, donnant volontairement l'impression d'avoir été victime d'un accident quelconque. Sur les plateaux de ses films, il conseillait généralement à ses acteurs de feutrer leurs discours, leurs mouvements ou leurs mimiques, et voilà qu'il multipliait les grimaces à la façon d'un survivant de films d'horreur. La probabilité qu'un autostoppeur fou veuille s'en prendre par surprise à un automobiliste en pleine tempête avait beau être faible, plusieurs véhicules lui passèrent sous le nez sans même ralentir, leurs occupants feignant de ne pas le voir lorsqu'ils ne manifestaient pas leur amusement. En dépit de sa situation critique, Tom refusait de regarder en arrière, sûr que le Snowcat allait fondre sur lui et le réduire en charpie avec ses chenilles. Au moment où tout semblait perdu, un pick-up Ford noir ralentit à sa vue, se glissa sur la bande d'arrêt d'urgence et s'arrêta. Tom se précipita, ouvrit la portière du passager et vit que le conducteur était seul. Un quinquagénaire massif aux yeux bleus saphir, son visage buriné par le soleil, traversé d'une moustache broussailleuse. Avec son jean, sa chemise à carreaux et son chapeau de cow-boy, il avait tout d'une star de musique country.
« Tu veux monter, gamin ? Ou bien tu distribues des prospectus à la gloire de Jésus ?»
lança-t-il d'une voix éraillée, évocatrice de celle du chanteur Trace Atkins. Oubliant toute prudence, Tom grimpa dans le pick-up et claqua la portière.
« Oui, je veux bien, merci. Par ce froid, c'est une bénédiction. »
Le conducteur reprit sa place au milieu de la circulation et accéléra lentement, du mieux que le lui permettait l'état de la chaussée.
« Où est votre voiture ? » demanda-t-il à Tom.
« Dans le fossé. J'ai eu un accident. »«
J'ai rien vu quand je vous ai fait monter. » »«
C'est arrivé un peu plus loin, à plus d'un kilomètre de l'endroit où vous m'avez récupéré. » Je pensais aller chercher du secours en marchant jusqu'à la prochaine sortie.
Vous avez fait plus d'un kilomètre sans que personne vous prenne en stop?
Il faut croire que je devais les effrayer, je ne sais pas.
Vous ressemblez autant à un monstre que moi à une demoiselle d'honneur. C'est le problème de nos jours. Les gens n'ont plus aucune bienveillance.
C'est malheureusement vrai.
Je m'appelle Porter Croquette.
Et moi, Nat. Nathanael West, mentit Tom en se faisant la réflexion que le manque de bienveillance de la société s'accompagnait d'un manque de confiance.
Vous tremblez comme un pentecôtiste possédé par l'Esprit Saint, remarqua Porter en augmentant le chauffage.
Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie.
Vous n'aviez donc pas de parka avec votre pantalon de ski?
Je l'avais enlevé pour conduire. La voiture a fait un tonneau. Je suis sortie par la fenêtre à moitié étourdie par le choc. Je n'ai pas pensé à récupérer ma parka.
Il y a une station-service un peu plus loin, Nat. Je vous déposerai là-bas si vous voulez.
Je ne vois pas comment ils pourraient me dépanner, ma voiture est ratatinée. De toute façon, c'est un véhicule de location. Je me contenterai d'appeler le loueur et de lui expliquer où elle se trouve. En revanche, ça m'arrangerait si vous pouviez me déposer plus loin, à Denver, par exemple.
J'habite à 2 sorties d'ici. Je reviens du Kansas où je suis allé voir ma fille, histoire de m'assurer que son nouveau mec la traite convenablement.
Tom commit l'erreur de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur latéral et le croque-mitaine caché sous son lit en profita pour sortir. L'énorme Snowcat se trouvait une centaine de mètres derrière le pick-up, bien reconnaissable à ses 3 projecteurs de toit. Il était peu probable que ses occupants sachent dans quel véhicule Tom avait pu monter. Le Snowcat était encore trop loin à ce moment-là, mais le cinéaste sentit renaître sa peur. « On ne pourrait pas aller plus vite ?» Porter fit non de la tête en souriant.
« C'est bien les jeunes d'aujourd'hui. Vous avez toujours le feu au train. Vous apprendrez avec le temps qu'il vaut mieux être en retard que mort. » Il n'y a pas un chasse-neige qui est passé par ici depuis au moins 1 heure ou 2. La neige se transforme en verglas par endroits. C'est déjà beau qu'on puisse continuer à rouler.
Un nouveau coup d'œil au rétroviseur latéral montra à Tom que le Snowcat venait de dépasser une voiture. Grâce à ses chenilles, il était plus rapide que le pick-up.
« Vous avez de la famille à Denver, Nat ?»
Tom, hypnotisé par le rétroviseur, se força à tourner la tête vers Porter Croquette. Ce dernier, en conducteur responsable, ne quittait pas des yeux la route à demi noyée par les bourrasques de neige. Un type bien, bon père de famille. Tom n'avait aucune raison de se méfier de lui. Avec sa grosse moustache et son visage marqué par la vie, il ressemblait à l'acteur Wilford Brimley ou au formidable écrivain Jim Harrison. « Qu'est-ce que je fabrique ?» Tout en se posant la question intérieurement, Tom se sentit coupable d'avoir menti à un bon samaritain. Un innocent, père, peut-être grand-père, sans doute veuf. Il mettait en danger la vie de Porter Croquette, tout ça parce qu'il était terrorisé. « De la famille à Denver ?» répéta-t-il. « Non, personne. Je suis originaire de Californie. Mon père est tailleur et ma mère couturière dans un grand magasin. J'aurais été mieux inspirée de me marier avec une fille super, Jennifer, que j'appelais Jenny. Tout ça parce qu'on ne travaillait pas dans le même domaine. Elle était agent immobilier et comptait franchir le pas un jour en passant à la construction de maisons. Je suis réalisateur de films et je ne m'appelle pas du tout Nathanael West, qui est l'auteur du roman Le jour du fléau, mais Tom Buckle, et je suis dans une mer de noir. J'ai conscience que c'est mal de vous raconter des salades. Je dois vous avouer la vérité. Je suis poursuivi par des cinglés, des fanatiques qui tuent des gens en pagaille. Ils sont à bord du putain de Snowcat qui nous suit, mais je ne suis pas sûr qu'ils m'aient vu monter dans votre pick-up. Ces dingues transforment les gens en zombies. Ils les obligent à se suicider en leur injectant des implants dans le cerveau, des nanomachines, comme le mari de Jane Hawke. Toute cette histoire est liée à Hawke. Mais pas comme ils essayent de nous en persuader. Il se tut, à bout de souffle. Porter Croquette se décida enfin à quitter la route des yeux. Son regard croisa brièvement celui de Tom. Puis il reporta son attention sur la route, à travers le pare-brise que fouettaient les essuie-glaces. Un coup d'œil à son rétroviseur lui confirma que le Snowcat gagnait du terrain dans son sillage. Il resta un moment silencieux, se demandant sans doute si son passager était complètement fou et s'il était préférable de le débarquer tout de suite ou d'attendre la sortie suivante.
« C'est la première fois de ma vie que je vois un snowcat sur l'autoroute. C'est aussi la première fois de ma vie qu'un type avoue m'avoir menti avant que je l'ai coincé dans ses contradictions. Vous m'avez raconté la vérité spontanément, même si votre histoire paraît dingue. J'ai toujours pensé que cette histoire de Jane Hawke n'était pas claire. Mais je ne me doutais pas que je prendrais un jour en stop à un réalisateur de film qui serait du même avis. Comme quoi, c'est le jour des premières fois, et j'ai comme l'impression que c'est pas fini. »
Devant le pick-up, la circulation ralentit.
« C'est quoi encore ce bordel ?»
s'étonna Porter en freinant. Tom vit brusquement un autre snowcat venir à leur rencontre. Il circulait à contresens, tout phare allumé, et venait de percuter un camion qui circulait sur la file de droite. Les automobilistes freinèrent à l'approche du lieu de l'accident. En dépit de leur chaîne, plusieurs véhicules dérapèrent sur la chaussée verglacée et l'autoroute se trouva brusquement bloquée par une demi-douzaine de voitures et de 4x4. Tom comprit soudain que le camion percuté par le snowcat n'était autre que celui dans lequel il avait lancé sa parka un peu plus tôt.